Nous voulons nous recueillir dans la prière. Ô Dieu, notre Père, tu viens de nous rappeler ce bonheur qui est devant nous et que nous allons bientôt connaître. Là où nous retrouverons tous ceux qui nous ont devancés, ces bien-aimés que tu nous avais confiés pour un temps et que dans ta grâce tu as trouvé bon de reprendre auprès de toi. Oh, nous sommes tranquilles. Nous sommes en paix à leur égard. Nous n'avons pas besoin de te prier pour eux. Ils sont dans ton repos, dans ta joie, en attendant l'heure de la résurrection. Seulement dans nos cœurs, nous nous souvenons de tout ce qu'ils nous ont donné, de ce qu'ils ont été pour nous, et nous voulons t'en rendre grâce. Et nous voulons te bénir de ce que tu as permis à Josaphat et à Françoise de traverser cette grande épreuve, et que tu les as soutenus au travers de ces eaux, ils n'ont pas été submergés. Et la flamme ne les a pas consumés, ils sont là au milieu de nous, dans le désir de te glorifier, de te servir, et de donner aussi la possibilité à d'autres d'entendre la parole qui était pour eux, leur consolation, leur force et leur vie. Et tu nous l'as rappelé qu'il fallait que nous estimions comme un sujet de parfaite joie, de joie complète les diverses épreuves que nous devons traverser. Et nous voulons te bénir parce qu'il n'y a pas parmi nous que des théoriciens de ta parole, mais des hommes et des femmes qui ont vécu ces choses et qui peuvent en rendre témoignage ce soir. Et c'est ces témoignages que nous aimerions pouvoir partager et entendre pour l'édification de toutes nos âmes, pour que personne ne puisse penser qu'il y a des êtres exceptionnels, mais que tous nous sommes faits de chair, que tous nous pouvons connaître des moments d'abattement, de brisement, comme Job qui s'est jeté dans la poussière, qui a pleuré, qui n'a pas été stoïque, mais qui n'a rien attribué à Dieu qui fut inconvenant. Lui qui a pu dire « L'Éternel avait donné, et nous croyons que nos enfants, c'est toi qui nous les as donnés. » Et l'Éternel les a repris, et nous croyons que rien n'arrive sans ta volonté. Et nous disons simplement que son nom soit béni. Et maintenant, dans cette journée d'anniversaire de nos bien-aimés, nous te demandons de les réjouir par cette espérance de ta prochaine venue, de ce revoir éternel, de ce rassemblement dans les nuées du ciel. Et notre prière est pour les vivants, en particulier pour notre bien-aimé Claude que nous chérissons. Nous te demandons de toucher son cœur et qu'il puisse encore donner beaucoup de joie à tous les siens. Nous te remercions de ce que tu as fait pour le jeune ménage que nous aimons, les enfants de nos bien-aimés, René et Jeanne, que tu les bénisses de ta bénédiction. Nous savons qu'ils auraient eu de la joie d'être aussi avec nous, mais nous savons accepter les séparations parce que nous sommes d'abord à ton service. Et nous te louons pour la grâce que tu nous fais encore de pouvoir te servir en Jésus. Dirige cette soirée, prends-la en main et qu'elle soit ce que toi tu as pensé et non pas ce que nous nous sommes proposés. Pour la gloire du Père, au nom du Fils et par la toute-puissance du Saint-Esprit. Amen. Et oui, mes bien-aimés, nous sommes arrivés à ce lundi soir, 6 juillet 1987. Nous avons aussi eu la joie d'apprendre que dans la famille de Charles Dupont-Aubu, les enfants de nos bien-aimés, monsieur et madame Aubu, et la sœur et le beau-frère de notre Jocelyn, il y a eu une naissance. Vous le savez déjà, je pense. Un Timothée. Un Timothée. D'accord. Pas la première épître. Après Benjamin, il y a eu Timothée, et nous sommes aussi dans la joie pour les parents qui voient leur famille grandir. Et évidemment, il est dit, les fils sont un héritage de la part du Seigneur, et le fruit des entrailles est une récompense. Et nous bénissons Dieu pour nos amis. Et surtout, que tout soit bien, se soit bien passé. Alors ce soir, nous continuons les œuvres de la foi avec cette pensée que le Seigneur est en train de former un peuple qui publiera ses louanges. Le peuple que je me suis formé et qui publiera mes louanges, comme nous l'avons vu dimanche matin au culte. Alors, après avoir présenté aux enfants ce soir une nouvelle maman des Écritures, nous allons poursuivre notre sujet des responsabilités et des privilèges d'un père chrétien. Hier soir, je vous ai invité à penser et à méditer personnellement sur la vie de deux pères au temps des patriarches, c'était Abraham, père d'une multitude, qu'on peut appeler aussi notre père, le père de tous ceux qui ont la foi, comme on l'a vu dans Romains 4. Et puis nous avons cité un autre père au temps patriarcal, un arabe, Job, qui était père, lui, de combien d'enfants ? 10, et même, si on le veut bien, de 20. Hein? Il en a eu 20, car après en avoir perdu 10, Dieu lui en a donné encore 10. Et j'aime beaucoup cette expression, parce qu'il est dit qu'il lui a donné tout au double. Et s'il avait 3000 brebis, il en a eu 6000. S'il a eu 500 ânes, il en a eu 1000. N'est-ce pas? Tandis que les enfants, il en a eu aussi le double. Alors, combien est-ce qu'il faudrait qu'il en ait eu? 20? Mais il n'en a pas eu 20. Il en a eu 10. Pour quelle raison? Les autres étaient vivants. Les enfants de Job, les 10 premiers, n'étaient pas perdus. Ils n'étaient pas perdus. Ils avaient été repris. Mais, il en a eu 10. Ensuite. Et alors, ça lui en a fait 20, tandis que les brebis qui avaient été prises, elles étaient mortes. C'est là toute la différence, mais il a eu le double aussi, au sujet de ses enfants. Voyez-vous, j'aime la parole parce que la parole, justement, elle est très précise et il n'y a pas un détail qui ne puisse édifier nos cœurs. Mais ce soir, avant de vous parler d'un troisième père, j'aimerais vous demander, comme on l'a prévu ce matin, que vous puissiez nous dire ce qui vous a frappé, ce qui vous a arrêté dans ce premier chapitre de l'épître de Jacques que nous avons lu. Alors, voyez, il y a le micro qui est là et on vous demanderait pour que l'on puisse enregistrer votre partage, de vous approcher du micro si possible. On le fait maintenant, oui. Alors, vous avez devant vous votre épître de Jacques. Il m'a semblé que je devais plutôt rester souple sous la mouvance de l'esprit et vous donner maintenant l'occasion de dire ce que vous avez ressenti. Puis après, pour finir, je vous citerai un autre papa en vous parlant de ses privilèges et de ses responsabilités. Un papa qui nous ressemble étrangement et qui va nous montrer combien la grâce de Dieu est là pour les pères aussi. Qui va commencer par nous dire ce qu'il a frappé, ce qu'il y a parlé dans ce premier chapitre de l'Épître de Jacques.
Ce ne sera pas juste l'université, certainement ça, mais vous avez certainement l'idée.
Vous avez quelque chose qui m'a frappé, qui était un peu en relation avec mon travail. Je vais vous lire ça, c'est vers la fin, là, mais en tout cas, j'ai été frappé vers la fin, c'est comme ça que ça s'est passé. Au verset 25, on dit, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » C'est dans mon travail pour le gouvernement, et puis quand on travaille pour le gouvernement, on fait appliquer les lois habituellement quand on... Alors, dans mon travail, j'ai à veiller à ce que, par exemple, la loi sur la santé et la sécurité du travail soit mise en application dans les établissements industriels. Et quand on accomplit un travail comme ça, moi, quand j'ai un contact avec les gens à qui on doit signifier la loi, c'est un contact astreignant. Les gens nous voient venir et puis n'aiment pas tellement ça. Et ici, on parle de la loi, d'une loi parfaite qui ne procure pas tout à fait le même effet. On dit que celui qui plonge ses regards dans la loi de Dieu sera heureux dans son activité. Et je faisais un peu ce parallèle avec mon travail, parce que je vis ça quotidiennement. D'abord, c'est une loi qui n'est pas parfaite. Une loi, quand elle est faite, quand elle est votée par l'Assemblée nationale, parce que c'est comme ça que ça se passe ici au Québec. D'abord, c'est une loi qui est retouchée souvent, elle est amendée à l'occasion, et on fait des règlements pour la rendre plus précise. Mais ici, on parle d'une loi parfaite, et cette loi-là, c'est la parole qui est entre nos mains. Et ça me dit que, d'abord, c'est un privilège qu'on a d'être formé par cette parole-là, et que si on va jusqu'au fond de cette parole-là, on va être heureux dans notre activité. Et par rapport à moi, ce que j'avais à mon travail, il y a des gens qui respectent la loi, en tirent pas de bonheur, ils sont pas heureux pour autant. Ils s'évitent les embêtements, mais ça leur apporte rien d'autre. Parce que lorsqu'on se soumet à la loi de Dieu, à sa loi parfaite, on est heureux dans notre activité. Donc, on soutire des choses qui sont applicables à nos vies et des choses positives. Alors, je voulais juste vous partager ça parce que ça m'a frappé, justement parce que j'ai un contact fréquent avec l'application d'une loi, mais cette loi qu'on a entre les mains, cette loi de Dieu, c'est une loi de liberté. Pendant que dans le monde, on appelle ça les lois de l'homme, ce sont les lois contraignantes, la loi de Dieu est une loi qui nous procure de la liberté. Alors, il y a un peu un antagoniste dans ça, et j'ai pu vérifier ça, effectivement, parce que plus on la connaît, cette parole, et plus on veut la suivre, et plus elle nous libère de tout ce qui est contraignant en nous. Alors, je voulais partager ça avec vous.
Merci. Vous voyez combien cela est précieux pour nous, parce que on voit que la parole a rejoint le cœur de notre frère, justement, dans ses occupations toutes matérielles. Et c'est là la beauté de la parole. Et on pourrait dire qu'il connaît aussi ce que j'appelle le deuxième bonheur, hein, parce qu'il est parlé dans l'Écriture de trois bonheurs. Eh bien, il connaît le bonheur dans la marche. Il sera heureux dans son activité. Le premier bonheur, et j'espère que tous ici le connaissent, c'est le pardon des péchés. Bienheureux l'homme dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Ça, c'est le premier bonheur. Le bonheur que l'on a quand nos péchés sont pardonnés. Oh, que Dieu permette que tous ici aient reçu le pardon de leurs péchés. Puis après ce premier bonheur, j'appelle le second bonheur, c'est le bonheur dans la marche, que vous trouvez illustré par le psaume 23. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est clair, hein? c'est pas une fois seulement, mais c'est tous les jours de ma vie, le bonheur dans la marche. Et c'est vraiment en étant avec le bon berger que vous aurez ce bonheur dans la marche. Pour arriver enfin au troisième bonheur qui devrait être le bonheur du départ. Je ne parle pas du bonheur éternel, mais quand on a fini sa course, eh bien on devrait pouvoir partir avec joie. Et j'ai vu des lits de mort où l'on partait avec joie, où c'était un envol, on savait où l'on allait, on savait que l'on était attendu, comme l'enfant qui est sorti du sein maternel a été reçu, c'était l'inconnu pour lui, mais pourtant il a été reçu, il ne savait pas ce qui allait lui arriver quand il sortirait du sein maternel, et pourtant il a été accueilli. Eh bien, nous voudrions que tous sachent que si même ils doivent passer par la mort, ils seront accueillis par notre Père éternel, par le Seigneur lui-même, pour connaître une félicité ineffable. Mais cela me rappelle un souvenir, justement, qui est très cuisant. C'était le père, c'était le docteur Rossier qui a écrit beaucoup de livres et qui a baptisé ma propre mère, et qui a été appelé au chevet d'un mourant, c'était en Suisse, et cet homme lui a dit, vous savez docteur, moi je me suis converti, c'est vrai ma conversion, je suis sûr d'être sauvé, j'ai été converti, et puis j'ai marché un temps, mais ensuite, eh bien, je suis retourné dans le monde. Et maintenant, je vais mourir, et je voudrais que vous fassiez mon enterrement, et que sur le cimetière, vous leur disiez, que je sais que je suis sauvé, mais comme au travers du feu, mais que je meurs sans joie. Je n'ai pas même la joie en pensant que je vais vers mon sauveur, et pourtant je sais qu'il est mon sauveur, mais j'ai le sentiment que j'ai perdu toute ma vie. Il n'avait pas le troisième bonheur. Moi, ce n'est pas à moi à juger qui est sauvé, qui ne le sera pas, mais je crois qu'on devrait pouvoir finir notre vie comme un beau coucher de soleil. C'est vrai ou c'est faux? L'apôtre Paul, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il a dit, il n'a pas dit, j'ai perdu la foi. On la perd pas. On l'a vraiment. J'ai gardé la foi. Pourtant, il y a eu des épreuves, il y a eu des tribulations. Mais il pouvait parler de son troisième bonheur comme en disant, pour moi, vivre, c'est le Christ. Mais mourir, c'est un bonheur. C'est un bonheur, car être auprès du Christ, c'est de beaucoup le meilleur. Et vous savez, ceux qui y sont, ils voudraient parvenir. Ils attendent dans la paix, dans la joie, dans la contemplation, l'heure de la résurrection. Mais ils sont loin du péché, loin de tout ce qui est tordu dans ce monde, et loin de toutes les larmes. Alors, merci de nous avoir partagé ça. C'est tous les jours de la vie. Heureux dans votre activité. Quelqu'un d'autre? Vous voyez, ça nous aide.
De sa propre volonté, il nous a donné la vie à sa parole de vérité, afin que nous soyons au premier rang de toutes les créatures. Ça m'a montré qu'au juste, on est vraiment important. On n'est pas, on n'est vraiment pas des esprits, parce qu'il faut vraiment dire qu'on a du prix aux yeux de Dieu, parce qu'il va nous classer au premier rang de ce que tu es. Et pour moi, c'est vraiment bien, c'est vraiment,
c'est vrai, mais combien c'est merveilleux. Ce qui est traduit dans cette Bible, au premier rang, c'est traduit ici les prémices. Les prémices de ces créatures, c'est ce qui vient au premier. Or, vous savez, qui est-ce qui est appelé les prémices? Jésus. Hein? Christ est les prémices. Prémisse, alors, vous êtes semblable à, Donc c'est la réalité. Nous étions prédestinés, il nous a prédestinés dès avant la fondation du monde, à être conformes à qui ? À l'image de son Fils. Donc au premier rang. C'est lui qui occupe en tout la première place. Alors comme nous serons en lui, nous serons à la première place. C'est quelque chose de merveilleux de prendre conscience de cela au premier rang. Oui. Voilà ce que le Seigneur a fait de nous des derniers, des derniers, hein, des dernières créatures. Et il a fait une œuvre qui nous place au premier rang. Alors prenez conscience de ce que vous êtes, mais de ce que vous êtes en lui. Si nous avons insisté sur le fait que nous étions zéro en nous, en Jésus nous sommes premiers. Alors, il n'y a pas de dépression nerveuse. Il est votre tonique. Et puis vous donnez toute gloire au Seigneur, puis vous vous réjouissez en lui. Quelqu'un d'autre va nous partager un autre. Verset 2.
Mes frères, regardez, comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Je ne vois pas l'air prétentieux, mais moi, je l'ai cherché autant que mon temps. Et puis, une chose que j'ai appris, c'est depuis 3 ans, j'ai eu beaucoup d'épreuves. Mais depuis 1 an, j'ai accepté mes épreuves. Depuis que j'ai accepté les épreuves avec joie, là, c'est pas possible comment un gars peut changer, comment il peut se sentir bien. Je parle changer intérieurement, là. Je vis, moi qui vivais 1 an d'avance, maintenant je vis jour le jour,
Amen.
Sans m'en faire pour demain, puis j'ai jamais savouré une journée comme depuis ce temps-là. Je regrette les 2 années que j'ai eu mal.
Eh bien, ça c'est merveilleux. Et le Seigneur te donne cette parole, je te redonnerai les années. C'est Joël, chapitre 2, verset 25. Même si tu regrettes, ne vis plus dans le regret, tu vis pleinement ces années qui sont transformées. Et chaque jour, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000. Chaque jour où tu as été heureux maintenant depuis cette expérience, ça valait 1000 jours passés. De sorte que c'est déjà rattrapé. C'est quelque chose de merveilleux parce que c'est le Dieu de la grâce que nous connaissons. Merci de ce partage. Et voilà justement un frère qui a été formé par Dieu pour la louange. Formé pour la louange. Je vous forme pour que vous soyez à la louange de la gloire de Dieu. Pas quand on saura le pourquoi de toutes nos épreuves, mais déjà maintenant. Il y avait un vieux frère de Belgique qui disait « Ici-bas, c'est les pourquoi, là-haut, ça sera les parce que. » Alors, on attend les parce que, mais il disait ça d'une voix très lugubre. Eh bien, il n'y a pas besoin d'attendre les parce que qui nous jetteront au pied du Seigneur, par terre devant lui pour lui dire, mais c'est merveilleux, mais c'est merveilleux de pouvoir dire déjà sur la terre, avant de connaître le parce que, même quand on ne comprend pas encore pourquoi on a dû passer par cette épreuve, Seigneur, tu es merveilleux, je te fais confiance. Et de l'éprouver dans son corps, notre frère, il peut dire qu'il est bien dans sa peau. Ça ne veut pas dire que notre santé est formidable, mais on est bien dans notre peau malgré tout. Parce qu'on est dans la peau du Seigneur. Dans la peau d'un autre. Pas dans nos feuilles de figuier. Parce qu'alors là, c'est la vraie nudité. L'agent, il n'était pas bien mais après Dieu l'a nu, il a fait des vêtements de peau. Et il était dans un vêtement de peau. Et dans un vêtement de peau, il était dans le Seigneur. Donne ta peau à lui. Il s'est sacrifié pour lui. C'est ça. Toute petite écriture n'est pas inspirée de Dieu. C'est ça. La mise en œuvre. Les vêtements de peau. On est sauvé par le sacrifice d'un autre. On est en quelque sorte dans la peau d'un autre. C'est pour ça qu'on est heureux. Mais quand on est dans notre propre peau, ben, c'est les feuilles de figuier. On se sent tout nu. Quelqu'un d'autre.
Je voudrais vous donner une expérience.
Non, c'est bien ça.
Parce que j'avais une relation avec ma sœur avant que je vienne au Seigneur qui était à l'indifférence. Puis, étant donné que j'étais venu au Seigneur, puis je m'étais dit, la première chose qu'il faut faire, c'est que je vais voir ma sœur, et puis tout ce que j'aurais pu faire, je m'en demandé pardon. Ça a causé que nous avons eu des contacts plus fréquents. Mais lorsque nous avions des contacts, souvent ça tournait en... Elle voulait vivre les expériences qui étaient passées, puis elle venait sur ça, elle faisait des discussions à cause de ça, puis moi, je demandais au Seigneur dans le temps qu'il me donne une parole. Parce que ça me troublait beaucoup. Je me rappelle un soir, j'étais revenu, puis le Seigneur m'avait donné l'épître de Jacques que j'aimais beaucoup. J'avais été au verset 19, ça disait, sachez-le, bien cher, bien-aimé, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Parce que là, avant que je vienne au Seigneur, ma première réaction aurait été une grosse discussion, puis j'aurais tombé en colère, mais c'est ça vraiment qui a changé ma vie dans le sens de mon attitude envers, premièrement, ma sœur, et puis même tous ceux qui pourraient être autour de moi. Puis on s'en continue au verset 21, c'est pourquoi le jetant toute sueur et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes.
Merci André. Et combien cela est vrai quand on peut comprendre cela au lieu de tout de suite parce qu'on n'est pas d'accord sur un point. Se laisser aller à l'emportement. Puis peut-être même, on essaie de le justifier en disant, mais c'était une sainte colère. Parce qu'on pense que Jésus a eu des saintes colères. Mais qu'est-ce que c'était la colère de Jésus ou les colères de Moïse? C'était la réaction du bien vis-à-vis du mal. Alors, c'est ça une sainte colère, une réaction du bien en face du mal, mais du mal manifesté. Mais nous autres, on est tellement misérables qu'on n'en a pas souvent des saintes colères. Alors, nous devons avoir de la grâce à l'égard de ceux qui ne pensent pas comme nous. Et c'est comme cela que les cœurs seront gagnés. Et je suis sûr que le cœur de ta sœur sera gagné, s'il n'est pas déjà. Quelqu'un d'autre?
Voyez-le ou non, c'est le même verset qu'André. À la différence que c'est pas ma femme, c'est ma femme des fois. Je viens pas ici faire des confessions. Ça m'a frappé ce matin. Oui, c'est ma femme. Ouais, okay. C'est que ça m'a frappé. À un moment donné, il était beau, on dit écoute, ça. Mais des fois, on peut s'égarer. Puis là, quand j'avais commencé, la colère, là. La parole, tout ça, là. Oups, j'ai pas sursauté, mais j'ai dit, tiens, on va être attentif, là. Puis, mais, pour compléter, par exemple, c'est là la différence avec André. Si on va au verset 22, c'est mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même. Ça veut dire que c'est l'enchaînement. Il faut y revenir. D'ailleurs, les intervenants avant moi, Bertrand, ici, c'est le monsieur. Ou l'autre monsieur, il en font allusion, c'est toujours la parole, c'est la base, c'est l'essence même. Comme je vous disais, dans mon cas, on se connaît tous, on va ici juste une semaine. C'est plaisant, on discute, on a des rencontres avec des gens. C'est toujours ce que vous dites, le petit appareil. Cette semaine, là, c'est notre petit appareil qui va fonctionner, parce qu'on n'a pas le temps d'aller plus loin, de se rencontrer plus. Mais quand on se regarde nous-mêmes dans notre fond intérieur, là, qu'on va plus loin, entre autres, à ce verset-là, comme André a mentionné, puis l'a lu, là, je comprends, lent à parler, ce qu'on faisait plus souvent, trop, par exemple, à écouter, puis dans mon cas, des fois, très lent à se mettre en colère, parce que c'est pas des colères là, de drogués ou d'alcooliques ou peu importe, là. Non, c'est des colères de situation, il se produit quelque chose, on fait un petit pédale, c'est la vie d'aujourd'hui. D'ailleurs, j'espère que je suis pas le seul dans la salle. Mais ça m'a frappé. c'est bon. Ok, correct. Je ne sais pas ce qui m'attend aux autres chapitres, là, mais les autres versets. Mais ça m'a frappé, ça. Ça tombait dans le milieu, là, puis ce matin, je suis quand j'ai entendu ça. Puis c'est ce que je voulais vous partager.
Merci. Bien, vous voyez, ça, j'avais vraiment à cœur que nous le comprenions et que je le comprenne moi, pour moi, parce que sur une épée à deux tranchants, il y a un tranchant pour moi, il y en a un pour vous, mais il y en a un pour moi. On ne prêche pas pour les autres, on se prêche à soi quand on est dépendant du Seigneur. Et le Seigneur nous humilie, nous dit, tu dis cela aux autres, mais toi, qu'est-ce que tu en dis, hein? C'est toujours ça l'interrogation, c'est pour ça qu'on aime après aller se recueillir, peut-être s'humilier, se dire, je ne pouvais pas leur dire autre chose parce que je dois prêcher le but, je dois prêcher ce qui est par terre. Ça ne veut pas dire que j'arrive, moi, mais je dois leur montrer que c'est vrai que toi, tu peux nous amener là. Et c'est pour ça que nous resterons dans l'humilité, nous ne nous glorifierons pas, nous n'essayerons pas de nous montrer, nous dire, vous voyez, moi je suis un type bien, c'est pas vrai, parce que quand on est dans la présence de Dieu, eh bien on soit minable. Mais quand on est dans la présence de Dieu, puis quand c'est minable, quand on est parti avec Dieu. C'est le départ. Il veut finir. Non.
C'est ça,
c'est là. J'ai tout cassé. Excuse-moi.
Je viens de mon fils, vous m'avez cassé.
J'oublie complètement qu'il me met en boîte. Qu'il nous met en boîte. Mais c'est vrai, c'est ça que vous vous en souviendrez.
Il avait parlé de la colère.
Non, nous avons compris que la colère n'accomplit pas la vie. On va y penser deux fois. On aurait toutes sortes de justifications. Mais la parole est là. La colère n'accomplit pas la vie. Je vais creuser ça. Je vais dire avant, ça n'accomplit pas la vie. Parce que lui, justement, il était en colère contre lui, avec raison, hein, mais sa colère, c'est... Et la colère de Dieu, elle est tombée sur qui? Sur le Saint. Et il dit, il n'a plus de colère. La parole de Dieu, il n'a plus de colère. Vous pouvez encore connaître les châtiments de Dieu en discipline, mais c'est jamais la colère. Vous ne devez jamais attribuer, quand vous avez une épreuve, que Dieu est en colère contre vous. Ce n'est pas vrai, c'est Satan qui vous dit cela. Le Seigneur, sa colère, c'est détourné. Mais ceux qui ne veulent pas du Seigneur, de la colère de Dieu demeure. Mais, maintenant, la parole de Dieu nous dit qu'il n'a plus de colère. Il était en colère contre nous, Ésaïe chapitre 12, mais sa colère, c'est détourné. Il n'y a plus de colère. Nous participons à la discipline. Il n'y a pas de colère. Et c'est ça qui est merveilleux. Tandis que le monde, ben, il attend la colère qui vient. La colère vient sur nous. Mais nous, nous attendons Jésus qui nous délivre de la colère à nous. Quelqu'un d'autre?
J'aimerais mentionner un verset qui a déjà été cité, le verset 2, qui m'a énormément frappé. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Je trouve que moi, la première, et beaucoup de chrétiens vont, à la rigueur, accepter les épreuves auxquelles ils sont soumis, se disant que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mais au point d'en être joyeux, je trouve pas qu'on voit beaucoup ça chez les chrétiens, vraiment, le refléter la joie de Christ en toutes circonstances. Et cette parole-là me parle à moi, la première. Et je me dis que vraiment, si en toutes circonstances, les chrétiens reflétaient la joie de Jésus, combien ça pourrait faire? On pourrait être des outils tellement plus précieux entre les mains du Seigneur et combien ça pourrait faire des conversions. C'est une chose qui me tord le cœur de voir des chrétiens tristes, parce qu'il me semble que quand on pense que Jésus est toute notre vie, puis qu'on a un salut qui est si merveilleux, puis une espérance si grande pour l'avenir qu'on ne devrait pas être triste, quelles que soient nos circonstances. Et c'est pour ça que je voulais rementionner le verset 2, parce que je trouve qu'on devrait le méditer peut-être tous les jours pour essayer de vivre la joie de Christ, que ça paraisse qu'on soit rayonnant.
C'est vrai. Et merci, ma sœur, parce que ce que vous touchez là, c'est une parole. Je me souviens de l'endroit à Nice, en France, où le Seigneur m'a parlé. J'étais dans une grande épreuve, et puis il m'a donné cette parole. Estimez-le comme un sujet de parfaite joie quand vous serez en but à diverses tentations, diverses épreuves. Et là, j'ai compris cela. Et, vous savez, il y a ces moments de grâce dans notre vie où c'est des versets qu'on connaît, hein, on les a peut-être lus, mais tout d'un coup, ça devient, comme notre frère le disait, au sujet de la colère, une réalité. On se sent atteint, hein. Et je me suis dit, mais c'est ça notre moyen d'évangélisation. On voudrait, n'est-ce pas, que le monde se convertisse. Mais le monde, il nous regarde, puis il dit, qu'est-ce qu'ils sont, ces chrétiens? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Qu'est-ce que ça a changé, leur conversion? Ils murmurent, ils sont pas contents, ils ont une épreuve. Eh bien, ils remettent en doute la justice de Dieu, la puissance de Dieu. Alors que, quand vous lisez les psaumes, il est dit, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours sur mes lèvres. » Et un peu plus loin, il est dit, « Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. » Donc, si on n'est pas rayonnant de joie, c'est qu'on n'a plus nos regards vers lui, sur lui, et c'est vrai. C'est qu'on n'a plus nos regards sur lui. Et il est affligé de cela. Parce que si on regardait toujours à Jésus, bien, on serait délivré d'une foule de choses. Quand on regarde à Jésus, bien, j'étais à Londres une fois, je me trouvais là et j'avais entendu cette parole. On ne peut pas regarder dans les yeux de Jésus et pécher. Et j'ai compris que c'était vrai. Je ne peux pas regarder dans les yeux de Jésus et pécher. C'est pas possible. Mais alors, je regarde ailleurs. Et alors, si je regarde ailleurs, tout me porte à pécher. Parce que tout ce qui est dans le monde, c'est le péché qui est étalé. C'est la convoitise qui est là dans le monde. Alors, elle trouve un accès dans mon cœur. Alors, puissions-nous le contempler, lui. Le christianisme, c'est une personne, c'est Jésus, la vie éternelle, c'est pas quelque chose, c'est quelqu'un, c'est pas une idéologie, alors c'est quelqu'un qui nous habite. Alors s'il nous habite, et s'il grandit en nous, nous serons aussi rayonnants de joie. Merci de nous l'avoir souligné. Alors vous voyez, au lieu d'être heurté par cette parole, estimez-le comme un sujet de joie complète, eh bien, il nous donne justement dans les épreuves l'occasion de manifester la réalité de notre foi, parce que quand tout va bien, c'est facile d'être souriant. Mais quand tout va mal, puis qu'on dit, mais vous êtes quand même heureux? Bien sûr. C'est pas les circonstances qui me rendent heureux. C'est celui qui m'a dit. Alors, lui ne change pas. Merci. Quelqu'un d'autre?
Moi, c'est deux versets que j'aurais toujours à partager. C'est le verset 22 et 23. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Ce que ça me fait penser, c'est qu'on souvent on lit la parole, Dieu nous parle. Dans nos cultes personnels, Dieu nous parle, on lit des livres, Dieu nous parle, des enseignements, Dieu nous parle aussi. On a tendance à oublier des fois le bienfait que Dieu fait pour nous, l'enseignement qu'il nous donne, des choses que Dieu nous dit. Peut-être c'est mieux de penser à ça, puis c'est pas bien ce que tu fais là, on oublie ça, puis on dit ben, plus tard, c'est en tout temps. Ce qui m'a fait penser aussi que si nous autres, on se regarde dans un miroir, puis qu'on voit notre homme naturel, c'est qu'on voit pas Jésus-Christ ici dans ce miroir-là. Parce que pour tendre à la stature parfaite de Jésus-Christ, éventuellement, on devrait voir à la place de nous-mêmes dans ce miroir-là, c'est Jésus-Christ. Fait que je me dis aussi, si on voit pas Jésus-Christ, les autres autour de nous ne voient pas Jésus-Christ, puis par conséquent, au bureau, les gens qui nous entourent, nos amis, c'est pas des, ils peuvent pas voir notre témoignage parfait. Fait qu'on vit pas vraiment l'évangile. On peut pas être vraiment le fait de la terre comme Jésus.
Ben c'est vrai, merci de nous l'avoir partagé. Nous sommes bien d'accord avec ce qu'il a dit, hein. Ça, c'est la vérité. Et on le sent. Parce que, quand vous regardez votre visage naturel, est-ce que vous trouvez qu'il a changé? Qu'il est amélioré? Visage naturel? Non, il s'améliore pas. Mais, ce que nous regardons, c'est le visage de Jésus, dans sa parole. Et alors, ça devient comme un reflet, c'est son visage. Nous sommes un miroir aussi. Et alors, si le miroir est tourné, bon, comme ça, je me vois, c'est pas beau. Mais si je le tourne comme ça, bon, c'est votre portrait, c'est peut-être meilleur. Mais enfin, on est des hommes, on le sait bien. Alors, il faut le tourner du côté du Seigneur. Et c'est son visage. Je cherche le visage du Seigneur jusqu'au fond de mon cœur. C'est cela que le monde voudrait voir. Le visage de Jésus dans nos vies. Vous savez, il y a des chrétiens, ça, ça fait beaucoup souffrir ma femme. Elle dit, à l'hôpital, ils viennent, ils sont chrétiens, ils disent que les autres sont des païens. Une chose abominable, je trouve. On ne peut pas dire que les autres sont des païens. Ils mettent leur Bible bien en vue sur la table de nuit pour montrer qu'eux, ils sont chrétiens. Hein? Et puis, ils jugent tous les autres. Puis, ils se plaignent de ceci, ils se plaignent de cela, ils se plaignent de la nourriture. Ils sont épouvantables à vivre. Mais ils veulent évangéliser. Ils détruisent tous leurs témoignages. Et on aimerait presque cacher leur vie. Parce que ça ne recommande pas la Bible. Pas plus que les télé-évangélistes américains. Ils ne recommandent pas la Bible parce qu'ils sont... Et pourtant, ils disent qu'ils croient à toute la Bible. Voyez-vous, c'est vous qui devez devenir une Bible vivante. Et quand on est une Bible vivante, on ne se plaint pas. Alors, que le Seigneur conduise nous, pas encore. Quelqu'un d'autre.
Verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, s'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Alors, lorsque le Seigneur nous donne la sagesse, il fait en sorte qu'on lui demande des choses. Par exemple, la guérison de quelqu'un. La difficulté à demander au Seigneur de le guérir, parce que je ne sais pas si c'est la volonté du Seigneur que cette personne-là guérisse. Puis je me pose la question des fois à savoir, est-ce que c'est-tu un manque de foi? C'est beaucoup plus facile de dire au Seigneur que sa volonté soit faite concernant telle personne. Puis je me demande des fois si c'est pas un manque de foi de pas être capable de demander quelque chose de précis, surtout concernant les choses, quand il s'agit de choses matérielles.
Mmh. Bien, n'est-ce pas, il faut savoir ce que c'est que la sagesse. Quand nous demandons la sagesse, qu'est-ce que c'est que la sagesse? La définition de la sagesse. Dans le chapitre premier de la première épître aux Corinthiens, en ta lumière, nous verrons la lumière. Qu'est-ce qu'il est dit? Que Christ est notre sagesse, notre justice, notre sanctification. Chapitre 1er, verset 30, la première épître. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Au fond, la sagesse, c'est lui-même. Alors, nous lui demandons que lui-même nous remplisse. C'était la prière de Paul, que le Christ habite en nous et qu'il grandisse en nous, qu'il remplisse toute chose. Alors, nous aurons la pensée du Christ. Même aussi dans une circonstance comme celle que vous venez d'évoquer, est-ce que réellement je dois demander pour tel cas la guérison? Si le Seigneur m'en convainc, bien je n'ai jamais vu qu'on ait demandé la guérison sans qu'elle le soit. Mais pour ça il faut la conviction du Seigneur. On n'y va pas légèrement. Et si on n'a pas la conviction du Seigneur, et puis c'est quelque chose qui s'opère, c'est quelque chose qui se fait. Nous avons perdu vraiment cette foi et ce discernement. Mais vous voyez, j'en ai parlé, mais c'était à Mahanaïm, parce que oui, on n'a pas eu de rencontre ici. C'était au mois, peut-être j'en ai parlé, oui, parce que déjà une année, mais moi ça passe. Hein. Quand on m'a demandé à Bruxelles d'aller voir un homme qui avait un cancer, il avait 50 ans, et il était humainement condamné. Et alors, les personnes pensaient que si j'allais le voir, c'était sur une guérison. Mais je ne suis pas un guérisseur. Je crois à la guérison divine. Et je crois que Dieu est tout puissant et qu'il peut guérir. Mais quand je suis entré avec un vieil ami, il me disait, là, dans ce foyer, le Seigneur m'a dit qu'il va partir. Mais ça, je l'ai entendu dans mon cœur. Il était pourtant de gros corps. Et il m'a saisi et il m'a dit qu'il doit lui préparer. Alors, j'ai parlé à lui, c'était un croyant, mais qui aurait pu encore dire, j'ai parlé à elle, pour la préparer à la séparation. Mon ami, qui m'avait conduit, il avait l'air catastrophé. Il faisait une tête épouvantable. Pendant que moi, je parlais du ciel, du bonheur du départ, de l'accueil de Dieu, etc., et que j'essayais de montrer que tu sais de quitter ton corps pour s'en aller vers le Seigneur, et après ce que le Seigneur ferait pour elle dans la solitude. Et je vous parlais dans la paix, dans la lumière. Mais mon vieil ami qui était marié, et il y avait une femme de près de 80 ans, mais lui, il n'était pas du tout prêt en tant que ça. Et en cet endroit, j'ai prié et on est parti. Et quand on est mis dans la voiture, la nuit d'exposition pour rentrer chez lui à Bruxelles, il m'a dit, mais garçon, c'est épouvantable, ce que tu leur as dit, ils doivent être capables de penser, ils doivent être dans les larmes, etc. Puis moi, je me disais, ne crois pas le pas. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? J'aurais dû lui dire quoi? Je vais vous imposer les mains, ça m'arrive, mais si le Seigneur n'a pas vu que faire, là, c'était tout autre chose.
Bon, alors on est arrivé chez sa femme. Puis il lui a dit, tu sais, garçon, quand même, il y va fort, là, avec ces jeunes, ils doivent avoir peur. Puis elle, plus spirituelle que lui, comme ça arrive souvent, chez les femmes, elles sont plus spirituelles que lui. Mais si Gaston a envie de dire ça, c'est que le Seigneur le guérit. Et j'ai compris une chose, parce que 5 mois après, elle, cette femme, la femme de l'homme, m'a répondu, mourait. Il dit, j'étais pas du tout préparé à ça. Et il fallait qu'il entende la conversation que j'avais avec les autres pour que lui soit préparé pour passer lui-même par le deuil.
C'est ça toujours drôle, hein, faire des visites. Mais le lendemain, j'avais un culte à Bruxelles. Une jeune femme vient vers moi, qui me prend les deux mains, qui me dit, oh, vous savez, c'est pas pour les noces d'or de M. Intel que vous êtes venu à Bruxelles, c'est vraiment pour parler à mon beau-frère et à ma belle-sœur. Et ils sont dans une joie. Et ils disent que vous avez été envoyé depuis le Canada uniquement pour eux. Et ils sont dans une joie immense. J'ai dit, c'est vrai. Oui. J'ai dit, allez le dire à mon ami. 11 jours après, il est venu le Seigneur. N'est-ce pas? Alors, il faut être fidèle. Tandis que le doyen de la faculté de théologie de Montréal m'a raconté qu'un prêtre est venu un jour chez un archevêque, je ne vous dirai pas dans quelle ville, et puis le frère de l'archevêque était mourant, mais mourant dans la paix, il était jeune encore, mais le travail de détachement s'était fait. Et il croyait au Seigneur, mais voilà un prédicateur, un autre prêtre, qui pense avoir le nom de guérison, il y a chez l'archevêque, qui lui dit, le Seigneur m'a dit que votre frère allait guérir. Alors, l'archevêque dit, je ne sais pas, mais vous pouvez entrer vers lui. Alors, le prêtre entre, lui dit, mon frère, tu vas guérir, et je m'envoie pour t'imposer les mains. Alors il lui impose les mains et lui dit qu'il est guéri. L'homme ressent une chaleur, on parle toujours de cette chaleur, il sent une chaleur, évidemment. Mourir, c'est pas naturel quand même. Alors si on vous dit que le Seigneur vous a dit que vous allez guérir, on se raccroche quand même.
Alors, il s'est rapproché et il y a eu un mieux que toi. Non, mais il est mort. Il est mort. Alors, nous, les serviteurs de Dieu, moi, je ne pourrais pas vous dire la guérison moyenne d'évangélisation. C'est une théologie, ça. Alors, pour avoir du monde, eh bien, nous faisons une grande campagne de guérison divine. On amènera tout le monde. Puis on dira, c'est une guérison avant. Bon. Je ne vais pas juger, je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir de guérison. Mais je ne vois pas mon Seigneur agir de cette façon. Il allait de lieu en lieu, et il vient. Alors, faites attention à tous les mouvements qui ont cours aujourd'hui, où l'on vous dit toujours qu'il y a des grandes guérisons et tout, moi j'y crois, la guérison divine, et je pourrais vous raconter des choses qui se sont faites, mais pour répondre à notre sœur, on a alors une conviction. Quand vous arrivez dans un hôpital, qu'il y a une femme qui est là mourante, et qui n'est pas du tout prête, et puis que les sœurs gouvernantes de l'hôpital vous disent, vous savez, on ne sait plus que faire, est-ce que vous ne pouvez pas aller vers elle pour lui parler, elle est révoltée. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Ben, c'est ce que nous allons voir demain, et je ne peux pas avoir seulement des bonnes paroles pour elle. On lui dit, alors madame, vous souffrez beaucoup, je n'ai pas besoin de dire ça. Elle dira, ben, vous le voyez, hein. Alors je lui dis, bien celui que le Seigneur aime, il le dit. Alors elle me répondra, vous voyez, les réactions, hein, comme du générique sur le lit, c'est un peu rafigé. Je bénis Dieu, moi, d'avoir été malade très jeune, d'avoir été dans les hôpitaux, d'avoir vu mourir tout autour de moi des multitudes, et d'avoir vu des pasteurs ou des frères ou des frères venir parler aux gens. Parce que je savais qu'ils faisaient du mal ou qu'ils faisaient du bien. Il y en avait un à côté de moi qui avait les deux jambes coupées. Il était venu avec les gens, puis il avait la gangrène, il avait fait d'abord une jambe par morceau ici, puis ensuite ici, puis après là, puis après là, puis après là, puis après là. Puis on l'avait mis à côté de moi par petit sacré, c'était un Italien, il était un homme de 68 ans. Puis moi, qu'est-ce que je pouvais faire? On était 16 dans cette chambre. Bien le matin, il voyait dire, il m'avait dit, tu me vois. J'ai la parole de Dieu. Je ne pourrais pas m'aller fond. Alors j'étais à côté. Alors bon, j'ai pas un côté. J'ai dit fond. Puis quand la sœur arrivait, j'ai dit, vous savez, le garçon il m'a béni. Il était en langage, il était catholique. Il m'a béni. Je n'avais pas béni. Je lui disais, j'essayais de lui expliquer. Puis j'ai dû prier avec lui. Puis un jour, il a pu partir de l'hôpital, mais sans jambes. Mais quelques jours avant, il y a un brave frère qui était venu me voir pour moi, pour me parler, parce que j'étais malade, j'étais un croyant, mais j'étais malade. Et moi, j'ai eu la bêtise de lui dire, vous ne pourriez pas dire une parole d'encouragement à cet homme que j'essaie d'enseigner. Alors, bon, je me suis battue. Alors, il va l'air de dire, j'adore, je vais ravir, je vais vous savez, c'est pas drôle, ça donnait mieux avec les deux jambes, c'est pour avoir plus de temps, genre. Et bien, réjouissez-vous, vous aurez bientôt les gens. Mais comme les phares, comme du vinaigre sur le nid, c'est celui qui chante des chansons à le cœur. Ah, j'ai dit ça dans les proverbes. Tu sais la réaction concrète avec tout ce qui montre là dont on a parlé. Hein. On peut faire beaucoup de mal et on peut blesser quelqu'un. Or, quelques jours après, quand lui devait partir, il me dit,
tu sais, Gaston, moi j'avais dit ça pour mon ami. Moi, je ne t'aurais plus à la maison. Si moi, je ne t'ai pas prié comme toi, tu ne pourrais pas me faire de prière. M'écrire de prière. Mais, si ton fils vient dans votre cœur, dis oui, tu comprends, moi, je suis trop vieux, je ne sais pas. Mais toi, tu sais ce dont j'ai besoin le matin, et tu sais aussi ce dont j'ai besoin le soir. Alors, je ne fais pas pareil. Mais vous voyez ce que Dieu nous fait faire. Est-ce que je vais aller demander à un comité? Est-ce que je peux faire une prière pour ce père Tito? Alors, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu demanderais, toi, pour lui? Alors, j'ai écrit une petite prière, comme ça, qui concernait sa femme, où il allait rentrer aussi. Et puis, une pour le soir aussi. Si j'ai mis ça dans une enveloppe, je me suis dit, je ne vais pas les lui donner. Hein. Mais je le vois toujours, on l'avait mis à café, j'étais sur la chaise roulante.
tremblantes, ces deux petites jambes, ces deux petits moignons qui étaient là comme ça. Les médecins étaient longtemps, parce qu'il avait été longtemps, puis je devais amputer les jambes, les médecins n'aimaient pas beaucoup. Alors, il y avait une certaine sympathie pour ces médecins qui n'avaient pas pu faire autre chose que de lui couper les jambes. Alors, tout le monde était là, puis il y avait les 16 personnes dans la chambre, les malades, puis tout d'un coup, ils m'ont dit, Jackson, des prières. Alors, vous voyez, c'est un traité qu'on oblige de prendre les prières. Elle était prête. J'ai lui donné. Et une des infirmières qui l'a suivi, qui est allée le voir, qui est maintenant auprès du Seigneur, mais m'a dit après, tu sais, Gaston, ces prières, il les a collées sur un carton pour qu'elles ne se croisent pas. Elles sont là sur son lit et les lits les matins. Bien, vous voyez, qu'est-ce qu'on peut faire? Être simplement à la disposition des hommes. Tu laisses le Seigneur faire les choses. C'est lui qui sait nos moyens, qu'est-ce qu'ils sont. Mais vous pouvez être persuadé que, je reviens à cette personne, alors, comment j'entre dans l'hôpital, je vois cette personne, elle était dans des souffrances d'attente. Le Seigneur me saisit. J'ai dit, mais c'est vrai, j'ai pris. Elle avait dit 5 ans. J'ai demandé le thé. Elle s'est guérie. Je ne veux pas les dire, je suis guérisseur. C'est sacré. Jésus disait toujours, ne le dites pas. Si quelque chose s'est fait, parce qu'on glorifiera toujours l'homme, qu'on exploitera les choses. Mais là, c'était le Seigneur qui m'avait conduit. Je pourrais vous en raconter d'autres. Mais ça, c'est sacré. Et c'est au Seigneur. Mais quand on vous prêche la parole, ça veut dire que on a une expérience que c'est vrai. Et pas qu'on l'a vécu. Alors, quand tu pries, tu demandes la sagesse. Il te la donnera. Mais n'agis pas sans une conviction. Parce que ça aussi, le Seigneur me l'a montré. Ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est quoi? C'est un péché. Alors, quand on n'est pas sûr, on n'essaye pas. J'ai entendu un homme qui me disait, c'est un prédicateur, qui disait, mais tu te mets sur un tabouret pour que les gens, parce qu'il y avait beaucoup de foule, hein, pour imposer les mains, ils ne pouvaient plus imposer les mains, il y avait trop de monde, ils voulaient faire imposer les mains, parce que tout le monde veut une grâce, tout le monde est malade, tout le monde a compris, mais c'est la douleur. Alors on vous dit de vous avancer et que ça et ça. Alors, il s'était mis sur un escabeau. Et puis, il avait des ailes, gros, là. Et puis, il est passé, non, pas de petit, de la chaîne. De temps en temps, il rattrapait le chignon de lui. Ça passait comme ça. Si on a tombé par terre, bon. Et elle, matin. C'était très bien. C'est une organisation, bon. Alors, c'est pour ça que c'est très important de nous laisser enseigner et corriger par Jacques. Les enseignements et les corrections de Jacques. Qu'est-ce qu'il y a fait cela, Nelly?
C'est très rapide, c'est juste comme, j'ai bien fait un joli comparatif entre deux traductions. Avec notre sens qui lit, il y a des choses qui m'ont beaucoup aidé, justement, ce sens 20 verset 19, sur les dents à la colère. Il y a des termes qui utilisent le terme. Disons, chaque mot, il y a deux points positifs, mais si je regarde verset 12, je ne sais pas, je ne sais pas plus comprendre, donc c'est qu'il dit simplement, heureux un homme qui demeure ferme de l'épreuve. Donc c'est un petit conseil. Alors donc c'est vraiment l'association entre deux choses différentes. Je pense que l'épreuve est suffisamment mentionnée dans le passage.
Oui.
L'association et l'épreuve, c'est vraiment deux choses extrêmement différentes. Surtout qu'il y a une autre qui fait. Donc dans l'épreuve, l'association, c'est vraiment un sujet qui est lié à l'association.
Oui, mais le mot grec est le même pour épreuve et tentation. De sorte qu'une épreuve peut devenir une tentation, tu comprends? C'est le même mot. Mais alors, il faut discerner ce qui est épreuve et ce qui est tentation. Mais ne jamais attribuer la tentation
à Dieu. C'est pas Dieu qui tente. Il ne tente personne. Mais Dieu, il est dit qu'il éprouva Abraham. C'est lui qui éprouve Abraham.
Et le passage que je connais souvent, le verset 12, c'est la traduction. Demeurer ferme, pour moi, la bonne traduction, c'est heureux l'homme qui demeure ferme dans la nation, en prenant des termes de ces deux côtés. Donc,
ben, bien sûr. Parce qu'une épreuve, quand elle se prolonge, ben, il y a la tentation de ne plus accepter. Alors, demeurons fidèles. Le français courant, c'est pour se mettre à la portée des plus simples, hein, qui ne pourraient pas comprendre certaines subtilités. Quelqu'un d'autre ?
Dans les versets qu'on a eus dans le chapitre-là, c'est comment Dieu nous est présenté. Et puis, c'est pour moi consolateur de lire ces choses-là. Au verset 5, on nous parle d'un Dieu qui donne. Et puis, c'est toujours pour moi, ça m'a toujours fait la même réflexion, que naturellement, notre esprit religieux veut que nous, on donne des choses à Dieu. Et puis, voici l'évangile, c'est que Dieu nous donne. Et puis ça, c'est consolateur. C'est un Dieu qui donne généreusement, libéralement. On lit aussi que c'est un Dieu qui ne fait pas de reproches. C'est un Dieu qui donne, qui est heureux de le faire et ne nous blâme pas de ce qu'on n'est pas certaines choses. On lit au verset 12, encore une fois, quelque chose qui est libérateur et consolateur aussi. C'est un Dieu qui promet. Alors qu'on a toujours tendance à vouloir faire des promesses à Dieu, c'est lui qui nous promet des choses. Au verset 13, c'est un Dieu qui n'est pas tenté par le mal, c'est un Dieu qui n'a pas des projets néfastes pour nous. C'est pas un Dieu destructeur, mais c'est un Dieu qui est bon. Au verset 17, on dit que c'est le Père des Lumières. C'est un Dieu qui ne nous jette pas dans les ténèbres ni dans la confusion, mais qui éclaire notre route. C'est toujours le même Dieu, il ne change pas. Son amour est toujours le même, sa miséricorde aussi. Il n'y a pas un jour qui nous aime moins ou qui est plus fâché contre nous. Et puis, finalement, au verset 20 aussi, ça m'a touché. On lit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et puis, donc, la colère qu'on a, nous, c'est contraire à ce que Dieu est. Et puis, quand je regarde, quand je suis en colère, moi, combien ça peut être destructeur et blessant pour les autres, eh bien, Dieu, c'est l'inverse. Dieu n'est pas un Dieu qui cherche à faire ça. Alors, pour moi, ça me touche beaucoup de voir que Dieu est tel pour moi, et puis ça me console beaucoup.
Amen. Ben, on peut dire que c'est vraiment le serment sur la montagne, et Marcel souligne ce que Dieu donne. Mais c'est Jésus qui a dit, demandez et vous recevez. Si vous qui êtes méchants, vous savez donner des choses bonnes à vos enfants, combien plus votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Mais il faut les demander. Et il nous montre que si un enfant nous demande du pain, on lui donnera pas une pierre. Et si il nous demande un œuf, on lui donnera pas un scorpion ou un serpent. Voilà notre Père des cieux, mais on le connaît si peu. Puis il voudrait qu'on soit parfait comme lui, notre Père des cieux. Et parfait, c'est vraiment l'essence du sermon sur la montagne. Il y aurait peut-être encore d'autres personnes, mais on aura encore peut-être d'autres soirées. Alors, je voudrais seulement vous laisser un papa qui vous fasse réfléchir. Oh, je serai pas long. Je vous dis simplement, c'est papa Jacob qui peut être médité. Vous connaissez toute son histoire. Et je voudrais simplement souligner le privilège et la responsabilité des pères. On a vu Abraham, on a vu Job, mais maintenant Jacob, eh bien, on peut dire que toute sa vie, on pourrait la résumer par ce texte de Galates, chapitre 6, verset 7. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. N'est-ce pas? Il y a des choses dont vous devez être. Si vous semez la corruption, vous récoltez la corruption. Ce qu'un homme aura semé, il le ra et il le moissonnera. Alors, quand vous pensez à Jacob, il a eu un père, mais il a trompé son père. Il a dupé son frère, Ésaü, et plus tard, lui, qu'est-ce qu'il a dû connaître? Il fut trompé par qui? Trompé et dupé par son beau-père, et plus tard, par qui? Par ses enfants, hein, alors voilà. Ça se paye, hein. Et ça s'est payé aussi chez ses enfants, le pauvre Jacob. Mais moi je dis, c'est quand même formidable. Parce qu'il y a quelque chose que je voudrais vous faire remarquer. Il est parlé beaucoup plus du Dieu de Jacob que du Dieu de qui? D'Abraham. Hein? Le Dieu d'Abraham, on dit, Abraham, hein, c'est l'homme de foi. Alors on peut comprendre que Dieu ait été le Dieu d'Abraham, d'un homme qui a pu subir la plus grande des épreuves, la plus grande des tentations. Il l'a subi. Mais que Dieu s'appelle le Dieu de Jacob, ça nous bouleverse. Bien, je trouve que c'est ça qui est merveilleux. Parce que moi, je ressemble pas tellement à Abraham. Je ressemble davantage à qui? À Jacob. Parce que nous sommes tordus de nature. Eh bien, Dieu n'a pas honte de s'appeler le Dieu de Jacob. Et je vous fais seulement remarquer cela. Dans l'Écriture, il est plus souvent parlé du Dieu de Jacob que du Dieu d'Abraham, et pourtant c'est le même foi, le même Dieu. Mais pour 13 fois qu'on trouve Dieu de Jacob dans le seul livre des psaumes, dans le livre des psaumes, il est parlé 13 fois du Dieu de Jacob. Et combien de fois du Dieu d'Abraham dans les psaumes? Il y en a 150? Une fois. Dans, je ne vais pas vous citer les autres textes, n'est-ce pas? Mais il est parlé plus souvent dans la Bible du Dieu de Jacob que du Dieu d'Abraham. C'est le même Dieu. Mais dans les psaumes, eh bien, je vous cite le psaume, c'est le psaume 47, si je ne m'abuse. C'est la seule fois que vous trouvez le nom d'Abraham dans ce psaume. Au verset 10, les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham. Car à Dieu sont les boucliers de la terre, il est souverainement élevé. Dans les 150 psaumes, c'est la seule fois qu'on trouve le nom du Dieu d'Abraham. Mais en revanche, on trouve 13 fois le Dieu de Jacob dans les psaumes. Alors, si Abraham nous parle de ce Dieu en qui il a mis sa foi, si Isaac nous parle du Dieu du sacrifice, Jacob, lui, nous parle du Dieu qui a été son berger. Il est le berger de Jacob. Le berger d'Israël, on chante du rocher de Jacob, toute son œuvre est parfaite. Eh bien, le Dieu de Jacob, c'est le Dieu de la grâce, le Dieu de la miséricorde, le Dieu de nous autres, des hommes qui sont si méchants de nature, capables de tromper. Et voyez-vous, quand vous lisez toute la vie de Jacob, vous pouvez souligner les erreurs de Jacob, les projets humains de Jacob, l'entêtement de Jacob, son manque de foi, et le fait d'avoir si souvent tourné ses regards vers le monde. Bien, en lisant la vie de Jacob, je me dis, ça pourrait très bien être ma vie. Et alors c'est ça qui me console. S'il a été le Dieu de Jacob, il peut être aussi mon Dieu. Le Dieu qui me fait miséricorde et qui ne se lasse pas de moi. Le Dieu qui ne m'abandonnera pas et qui sera mon berger. Et quand vous
revoyez l'histoire de Jacob maintenant. Il a quitté Charan, il a quitté son beau-père, il est parti avec ses quatre femmes et ses enfants. Mais qu'est-ce qui caractérisait Abraham? Quelles étaient les possessions qu'Abraham avait en Canaan? Vous le savez? Et c'était quoi? C'était un tombeau. C'est tout ce qu'avait Abraham dans le pays de la promesse. Mais Jacob, lui, quand il est arrivé avec ses femmes, ses enfants, qu'est-ce qu'il a fait? Abraham avait sa tente et son autel et un sépulcre, hein, c'est tout ce qu'il avait. Il était vraiment un étranger et un voyageur. Mais Jacob, ayant du bien, qu'est-ce qu'il fait quand il arrive à Sukkot? Il construit une maison. Oh, ne pensez pas que j'ai critiqué ceux qui ont construit une maison. Hein. Mais c'est seulement pour vous montrer le changement. Jacob, lui, il a dit qu'il s'est bâti une maison à Sukkot. Il a fait des cabanes pour son bétail. Il s'est installé et il a acheté du terrain. Il a acheté du terrain, il s'est bâti une maison, il s'est installé. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence? C'était chez les Sichémites qu'il s'est installé, qu'il a acheté sa maison, qu'il a bâti un terrain. Si un soir, quand vous habitez près de Sichem, si vous avez une fille qui s'appelle Dina, qu'est-ce qui arrive? Il n'y a pas la télévision pour la garder à la maison. Alors qu'est-ce qui arrive à ces Dina maintenant qui sont bien installées dans une maison? Elle me sortit pour voir les filles. Pour voir les filles du pays. Mais justement, en voulant voir les filles du pays, elle tombe sur un garçon. Le garçon, qu'est-ce qu'il fait? Il l'enlève. Il couche avec elle. C'est très difficile. Puis il veut l'avoir pour femme. Puis c'est toute cette misérable histoire des Sichémites. Et les fils de Jacob qui ne peuvent pas admettre qu'on ait violé leur sœur. Et quand on a violé une femme en Orient, eh bien, qu'est-ce qu'on mérite? La mort. Et les fils de Jacob, si le père ne veut pas agir, eh bien, nous agirons. Et ils agissent par rue.
Ils leur disent, on veut bien vous la donner, notre sœur. Mais tout ce qu'on vous demande, c'est une petite coupure à votre vie.
Voilà. Être circoncis. Et le bonhomme, il aime tellement cette fille qu'il accepte de se faire circoncis, mais il arrive avec son père à convaincre toute la population que ce serait quand même bien d'avoir ces gens avec eux, cette traité alliance, et tout ce qu'ils demandent, c'est une petite opération, et c'est peut-être plus hygiénique, etc. Là, on présente les choses et tout le monde accepte d'être circoncis. Mais le troisième jour, quand ils sont dans les douleurs, Siméon et Lévi s'en vont avec un bébé qui marche. C'est beau, hein? C'est le pauvre Jacob, qu'il a dû regretter d'avoir fait sa maison là, et de s'être installé là, puis d'avoir acheté un champ là. Et il dit, mais vous m'avez mis en mauvaise odeur aux habitants de tout le pays. C'est ta faute. Il faut y penser, vous avez des enfants, vous êtes papa, vous êtes maman, qu'est-ce que vous voulez pour vos enfants? Il ne faut pas seulement penser à nos aides, c'est pour ça qu'il est dit au psaume 87 qu'on a lu au mariage de Suzanne Poulain, eh bien que Dieu préfère les demeures de Sion aux demeures de qui? De Jacob. Aux demeures de Jacob, parce que Jacob, lui, il a bâti des maisons. Abraham, il n'avait qu'une tente et un hôtel. Mais on veut s'installer, la richesse, eh bien, voilà, on prend ses deux. Puis après, qu'est-ce qui arrive? Bien voilà, Rachel, la femme qu'il aime, qu'est-ce qui lui arrive juste après l'histoire de Dina? Qu'est-ce qui arrive au pauvre Jacob? Sa femme meurt au bord du chemin. Mais voilà de nouveau la langue, ce petit instrument. Quand Laban était venu et avait dit à Jacob, écoute, pourquoi est-ce que tu t'es enfui, tu ne m'as pas même laissé embrasser mes filles, et pourquoi est-ce que tu as volé mes séraphins, ces petites statues, ces petites idoles, hein? Pourquoi est-ce que tu me les as volées? Alors, Jacob dit, personne ne t'a volé, quoi que ce soit. Tu peux entrer dans toutes les tentes. Si tu trouves ces séraphins dans l'une des tentes,
la personne chez qui tu la trouveras, elle mourra. Vous voyez ce que c'est grave, hein, de dire une chose. Jacob a dit, la personne chez qui tu trouveras ces téraphins mourra. Qu'est-ce qui avait volé les téraphins? C'était Rachel. Mais il ne le savait pas. Ah, c'est grave. Il ne le savait pas. Alors Rachel, elle s'est bien arrangée, hein. Elle a dit qu'elle avait ce que les femmes ont coutume d'avoir, qu'elle ne pouvait pas se lever. Elle avait caché les téraphins sous le bas d'un chameau. Elle était assise dessus. Elle a dit, papa, je ne peux pas me lever, je suis malade. C'est ce que les femmes ont coutume d'avoir. Voilà, c'est très clair dans la Bible. Puis Laban, on ne l'a pas fait se lever. Et alors Jacob dit, tu vois, tu m'accuses d'avoir volé, tu n'as rien trouvé. Alors Laban repart. Mais quelques jours après, Rachel, elle met au monde Benjamin. Puis qu'est-ce qui lui arrive? Elle meurt en couche. Et c'était la femme qu'il aimait. Elle meurt en couche au bord du chemin, il l'enterre là. Vous savez, mes amis, hein, nous sommes pères, nous sommes mères, mais nous avons une responsabilité dans tout ce que nous faisons. Et vous devez y penser, ne pensez pas qu'à votre travail, qu'à votre patron, pensez à votre femme, pensez à vos enfants. Pensez que quand vous déménagez, eh bien, vous avez une responsabilité aussi vis-à-vis de vos enfants. Où les mettez-vous? Quels gens fréquenteront-ils? Ça va loin, mes amis, quand on est marié. Nous devons y penser. Nous avons une responsabilité de père. Et puis alors, évidemment, après, qu'est-ce que Ruben fait? Son fils aîné. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi il a fait ça? La servante de Rachel, comment est-ce qu'elle s'appelait? Bila. Et qu'est-ce que Ruben a fait à Bila? C'est une des femmes de Jacob, mais la femme de qu'il aimait. Une fois que Rachel est morte, les rabbins disent, pour expliquer la chose, que comme c'était la servante de Rachel, au lieu d'aller coucher avec Léa, Jacob avait fait son lit avec la servante de la femme qu'il aimait, avec Bila. Et dans sa rage, Ruben, qui était fils de qui? De Léa. Pour venger sa mère, lui qui avait déjà trafiqué avec les mandragores, c'est une autre histoire. Pour venger sa mère, il est allé coucher avec la femme de son père. Il a perdu son droit d'aîné à cause de ça. Mais vous voyez, un père, les soucis qu'il peut avoir et les responsabilités qu'il a. J'ai dit responsabilité d'un père, mais aussi privilège. Il y a des privilèges. Alors, quand on a sa femme morte, puis qu'on a un fils de cette femme, on en a même deux, Joseph et Benjamin. Jacob s'est consacré à quoi? À instruire Joseph. Il s'est donné entièrement au fils de Rachel, il s'est donné à Joseph, il l'a bien instruit. Parce que Joseph, évidemment, il est tout différent de ses frères. Mais Jacob ne s'est pas assez occupé de ses enfants, il s'occupait de ses troupeaux, il s'occupait de ses affaires, il s'occupait de faire grandir ses biens, mais il n'a pas donné du temps à ses premiers enfants. Mais une fois qu'il a perdu Rachel, il a donné du temps à qui? À Joseph, parce que Joseph n'avait plus de maman. Alors Jacob a voulu être la maman. Papa et maman sont une seule personne. Il y a des personnes ici peut-être qui doivent faire les deux. Être papa et maman en même temps. La maman n'était plus là, alors il n'y a plus que le papa, papa et maman. Mais Jacob a été papa et maman. Mais pour être papa et maman, il a fallu qu'il passe par toutes sortes d'épreuves. Et alors il a bien élevé son Joseph. Son Joseph tranchait avec ses frères qui racontaient des gaudrioles, ils avaient des mauvais propos. Mais ils ont jalousé Joseph. Et puis vous connaissez toute cette histoire. Pour finir, ils ont voulu se débarrasser de Joseph et ils l'ont vendu. Après avoir voulu le tuer. Et le pauvre Jacob a vécu dans toute espèce de souffrance. Il a été trompé par ses fils qui lui ont menti en face en lui faisant croire pendant des années que son fils était mort. Mais dans sa grâce lui est intervenue. Jacob, Jacob, tu peux descendre en Égypte. Et il est descendu en Égypte. Et il a retrouvé son fils. Et il a vu les fils de Joseph.
Mais quand il s'est trouvé devant le Pharaon, et que le Pharaon lui a dit, quelles sont les années de ta vie? Il a dit, oh, les jours des années de ma vie ont été courts et mauvais. Ils n'ont pas atteint les années de mes pères. Il est conscient que ça n'a pas bien marché pour lui. Il n'a pas été comme Isaac, son père. Il n'a pas été comme Abraham, son père. Et il le confesse devant le Pharaon. Mais quand même, il est restauré et il pourra dire à son fils Joseph, le Dieu devant lequel mes pères ont marché, Abraham et Isaac, le Dieu qui a été mon berger. Il l'appelle son berger, celui qui m'a toujours ramené. Et puis, quand vous arrivez à la mort de Jacob, oh que j'aime cela, il est là, sur son lit, il réunit tous ses enfants, et il leur dit la vérité, surtout sur ce que Ruben a fait. Il lui donne sa bénédiction, mais il lui rappelle son péché, ce qu'il n'aurait jamais dû faire. Tu es monté sur ma couche, tu as profané ma couche. Il parle à Siméon et Lévi. Mon âme n'est pas dans votre colère, ce que vous avez fait aussi chez moi. Je n'étais pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Vous avez trompé, vous avez été sanguinaire. Et puis, il parle ainsi à chacun de ses enfants. Et quand il a terminé, qu'est-ce qu'il fait? Il retire ses pieds dans le lit et il adore, appuyé sur le bout de son bâton et il s'endort. Et il meurt. La grâce de Dieu avec un Jacob. Nous sommes terriblement semblables à Jacob, mais je voudrais vous dire, la vie de Jacob vous prouve, non pas que vous pouvez faire comme lui, mais que même si vous avez eu des manquements, même si vous sentez toute votre misère, c'est un Dieu de grâce. Et c'est ce qu'il est dit dans le chapitre 11 des Hébreux, et c'est avec ce texte que je termine sur les privilèges et les responsabilités d'un père. Il est dit, c'est par la foi, verset 21 du chapitre 11 des Hébreux, que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé à l'extrémité de son bâton. Finir sa vie dans l'adoration. Dieu notre Père, tu es un Dieu saint, trois fois saint. Tu ne tiens pas le coupable pour innocent. Tu as les yeux trop purs pour voir le mal. Tu es le Dieu de vérité qui ne tolère pas le mensonge. Mais tu es le Dieu qui pardonne et qui fait grâce à ceux qui reconnaissent leur misère. Et ce que nous savons, c'est que Jacob un jour a su pleurer devant toi et t'a supplié dans ce combat qu'il eut avec l'ange et qu'il a voulu ta bénédiction et qu'il a pu dire, je ne partirai pas d'ici que tu ne m'aies béni. Et tu le bénis là. Et quand le soleil se levait, Jacob put partir en disant, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été libérée. Que dans ce camp familial, tu nous donnes la grâce de pouvoir te voir face à face, et que nous puissions, en nous quittant, proclamer aussi que nous avons été l'objet d'une délivrance particulière et totale pour ta seule gloire. Amen.